Nous retrouvons à présent l'émission Parcours présentée par Virginia Crespo.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre émission Parcours qui vous est proposée maintenant pendant une heure de temps sur Canal Académie. Parcours a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Bourgeois. Bernard Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait partie de la promotion 1951 de l'École normale supérieure. Vous en êtes sorti avec votre agrégation de philosophie. Ensuite, bien, ce fut le service militaire pendant trois longues années, de 54 à 57. Vous étiez officier des tirailleurs.
Tout à fait.
Des souvenirs pénibles?
Oui et non. Non pénibles parce que les conditions de vie à l'époque, c'était la guerre d'Algérie, étaient difficiles. Mais oui aussi, car j'ai beaucoup appris dans ce service militaire très long. Et finalement, j'ai gardé un bon souvenir de cette période.
Pendant six ans, vous êtes ensuite professeur au lycée de Mâcon.
Oui, où j'avais fait mes études d'ailleurs. Et j'ai voulu y retourner comme professeur, retrouvant d'anciens maîtres qui étaient devenus mes collègues. Et j'étais très content de retrouver donc ce lieu qui avait marqué une bonne partie de mes études.
Votre carrière universitaire commence ensuite à partir de 1963. Vous enseignez successivement à la Faculté des Lettres de Lyon,
oui,
à l'Université Lyon 2,
oui,
à l'Université Lyon 3, puis à l'Université Paris 1, où vous enseignez pendant 10 ans.
J'ai fini ma carrière pendant les 10 dernières années de celle-ci à la Sorbonne, effectivement.
Bernard Bourgeois, pour mettre à l'épreuve votre modestie, vos cours étaient très fréquentés. Bon orateur, vous étiez capable de présenter des problèmes complexes d'une façon presque familière, variant le ton, recourant à l'anecdote, proposant un cheminement clair. Le grand professeur que vous avez été a également été directeur de thèse respecté. Vous avez pris tout au long de votre carrière les responsabilités institutionnelles qui vous incombaient, doyen de la faculté de philosophie de Lyon, vice-président de l'université Lyon 3, Jean Moulin, membre du Conseil national des universités pendant 10 ans, ce travail, membre de la commission française pour l'UNESCO, directeur de l'UMS 821 dans le cadre du CNRS.
CNRS, oui.
C'est une UMS.
C'était une UMS qui regroupait trois composantes, la Société française de philosophie, l'Institut international de philosophie et la Fondation pour la science, l'héritière du centre de synthèse fondé autrefois par Henri Bert.
Bernard Bourgeois, dites-nous, quand s'est dessiné cet amour, cette passion de la philosophie? Pourquoi? Comment cela est-il venu?
C'est difficile, mais enfin je vais essayer de répondre. J'ai toujours fait le projet pour moi et pour les autres, puisque je suis devenu professeur, et qu'il s'agisse de moi et des autres était impliqué déjà dans le contenu de ce projet, le projet de réconcilier en moi, si je puis dire, l'affirmation de moi-même, la personne, et d'autre part, l'affirmation du tout, car même si l'on veut être un soi, si ce soi est quelque chose et non pas rien, il doit bien s'intégrer dans le milieu dans lequel se développe la vie, et ce milieu, c'est celui de la communauté, c'est celui du tout. J'ai voulu réconcilier le moi ou le soi et le tout, et c'est ce que la philosophie m'a paru pouvoir, de façon privilégiée, permettre d'actualiser, puisque le philosophe est quelqu'un qui actualise le « je pense », le « je », le « soi », l'individualité, et la pensée qui est toujours un exercice universalisant. Le « je pense » qui définit la démarche du philosophe, donc me semblait pouvoir réaliser le souhait qui était le mien, comme c'est celui de tout homme, à la fois d'être un soi, mais de l'être effectivement dans la constitution d'un réseau de familiarité, de sympathie, d'identité avec le milieu total dans lequel il vit.
Alors, la réponse, y êtes-vous parvenu?
On n'y parvient jamais. C'est toujours difficile à la fois d'être soi-même et d'être véritablement en réalisant une vie adaptée au milieu dans lequel on est, qui à la limite est le milieu du genre humain, c'est-à-dire le milieu universel. Par conséquent, c'est une tâche qui n'est jamais réalisée, puisqu'elle consiste à unifier deux moments qu'on peut considérer un peu comme antinomiques. Le soi, la singularité, et le tout, l'universalité. Par conséquent, c'est une tâche infinie.
Entre-t-on en philosophie comme on entre en religion?
Je crois qu'on entre en philosophie ou en spéculation comme on entre en religion, et d'ailleurs pour cette raison immédiate, que la religion, c'est une conscience totale et totalisée, et la philosophie veut également unifier en elle-même la conscience et en faire en quelque sorte un tout où elle se retrouve elle-même, quels que soient les aspects et les moments de ce tout. Vous avez raison, on entre en philosophie, on s'efforce d'y entrer, mais entrer dans la philosophie, ce n'est pas pour autant entrer dans la sagesse, car celle-ci est un idéal que le philosophe s'efforce d'atteindre, mais c'est une entreprise, elle aussi, qui est infinie.
Justement, la philosophie aide-t-elle à vivre ?
Je pense que la philosophie aide à vivre et il me semble qu'actuellement, ce caractère, non pas de luxe de la philosophie, mais son caractère vital devient de plus en plus manifeste. Nous sommes, vous le savez, à l'époque des conflits culturels, mais les conflits entre les cultures ne peuvent pas se résoudre simplement par des échanges culturels au niveau simplement des cultures, parce que les cultures sont des engagements qui sont simplement collectifs et non pas universels. La culture, c'est les cultures. Philosopher, c'est s'arracher autant que possible à sa culture, et de telle sorte que les différentes cultures, prenant leur distance par rapport à elles-mêmes, dans les philosophes qui naissent en elles, cette volonté d'universalisation commune à partir de cultures particulières permet seule aux cultures, en se dépassant chacune elle-même, de nouer entre elles des relations qui sont des relations d'amitié, des relations d'identification et de réconciliation. À l'époque des conflits culturels, je pense que s'adonner à la philosophie, c'est une tâche absolument nécessaire. Il faut plus que jamais que les hommes qui sont tous philosophes, chacun est philosophe, c'est une certaine manière de se rapporter à soi-même de façon critique. Bien, je crois que ce qui est la vocation de tout homme est actuellement une tâche plus nécessaire que jamais. Les conflits culturels qu'on constate et dont on annonce le développement me semblent de pouvoir se surmonter que si, en chacune des cultures, les hommes, devenus tolérants, prenant une certaine distance vis-à-vis de leur culture sans cesser d'aimer celle-ci, la pratique comme un chemin vers l'universel qui n'exclut pas d'autres chemins, la convergence se faisant à l'arrivée, même si cette arrivée est une arrivée à l'infini.
Vous évoquiez les conflits culturels. Beaucoup de religions visent l'universel, elles aussi. Est-ce qu'un jour la philosophie pourrait remplacer les religions ?
Il ne s'agit pas de remplacer la religion. Je pense que la religion est une démarche absolument fondamentale est essentiel, mais à l'époque où la culture, comme entreprise qui comporte en particulier le savoir, se développe, et c'est tant mieux, de plus en plus, la conscience religieuse ne peut pas rester en arrière de cette culture. Et il faut bien qu'elle s'efforce elle-même de s'armer intellectuellement, non pas pour combattre les autres, mais pour mieux les comprendre, car la pensée est toujours, parce qu'elle est universalisatrice, ce qui permet l'identification, la réconciliation, et par conséquent, il ne s'agit pas de supprimer la religion, mais de faire en sorte qu'elle anime des consciences qui, par ailleurs, en s'universalisant dans la démarche philosophique, se comportent les unes vis-à-vis des autres d'une manière beaucoup plus tolérante. Donc, soyons philosophes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être religieux. La religion est une dimension essentielle et fondamentale de la conscience humaine, mais la philosophie est une démarche dont, je crois, les religions ne doivent pas avoir peur, puisque la philosophie, comme la religion, a bien une visée, elles ont toutes deux pour viser la réconciliation entre les hommes et l'universalité.
Bernard Perrougeois, est-ce que le fait d'enseigner la philosophie fait de vous incontournablement et logiquement un philosophe, ou est-ce deux choses différentes ?
Je pense que l'enseignement de la philosophie, c'est là une expression en quelque sorte pléonastique ou tautologique, car de même que la philosophie est l'identification, la réconciliation en acte au sein de soi-même, de la singularité et de l'universalité, elle a par là même comme milieu privilégié l'éducation, puisque l'éducation consiste elle aussi à s'universaliser en communiquant à autrui et en lui permettant de pratiquer lui-même ce que soi-même on a appris avant lui d'autres à pratiquer. Par conséquent, l'enseignement et la philosophie sont liés de façon très intime. Je pense que la méditation philosophique, la réflexion n'est rien d'autre que l'intériorisation d'un dialogue et d'une communication, et c'est bien ainsi que la philosophie est née et s'est manifestée de la manière la plus illustre avec Socrate. Et par conséquent, enseigner la philosophie, philosopher en enseignant, c'est au fond une seule et même démarche.
Bernard Bourgeois, vous avez souhaité écouter un moment musical, une œuvre d'art. Hegel a écrit « L'œuvre d'art est un moyen à l'aide duquel l'homme extériorise ce qu'il est ». Donc nous sommes en plein dans ce sujet et nous allons écouter une symphonie de Hind, la symphonie dite « du philosophe », la numéro 22. Vous venez d'écouter un extrait de la 22e symphonie de Hind, dite la symphonie du philosophe. C'est un choix que nous devons à Bernard Bourgeois, qui est notre invité aujourd'hui, l'invité de Canal Académie dans l'émission Parcours. Bernard Bourgeois, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a été élu le 2 décembre 2002 dans la section philosophie de cet institut. Bernard Bourgeois, vous avez enseigné tout au long de votre vie la philosophie. cet art d'interpréter diversement le monde, selon Marx. Comment avez-vous, justement, vécu ces moments de transmission, d'échange autour de ce savoir, autour de cette philosophie, transmettre toutes ces interrogations existentielles véhiculées au fil des siècles depuis que l'homme maîtrise la parole, puis l'écriture, doit tisser incontournablement des liens différents entre enseignés, enseignants, que dans d'autres matières, des liens particuliers.
Vous avez raison, l'enseignement a été ma vie. J'ai enseigné de 1954, avant même d'être libéré, si je puis dire, pour un moment de cette tâche, pour accomplir les obligations militaires que vous évoquiez tout à l'heure, jusqu'à 1999, pendant 45 ans. Et le bilan que j'ai dressé de cette activité qui a été pour moi l'activité essentielle est un bilan malheureusement négatif. J'ai laissé l'institution de l'instruction publique, l'institution universitaire en particulier, dans un état qui était pire que celui dans lequel je l'ai trouvé, en dépit de tous les efforts que j'ai pu faire et que beaucoup de mes collègues et amis ont pu faire, tellement l'institution universitaire et scolaire a été plongée depuis une soixantaine d'années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une période de très grandes difficultés, pour ne pas dire de crise constante, qui ne concerne pas évidemment seulement l'enseignement de la philosophie, mais l'enseignement dans son ensemble, crise dont la constance est bien confirmée par la succession, qui n'est encore pas achevée, des réformes ou des projets de réformes qui ont bouleversé ou agité l'éducation nationale en France. Je ne veux pas tenir des propos uniquement négatifs, puisque encore une fois, j'ai accompli mon métier passionnément et ça a été pour moi toujours une expérience exaltante, excitante, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que, me semble-t-il, la période d'une soixantaine d'années qui n'est encore pas achevée, cette période a été une période que l'institution scolaire universitaire française n'a pas su maîtriser et surmonter. Il fallait, bien sûr, procéder, et c'était absolument nécessaire, urgent, à ce qu'on appelait une démocratisation de l'enseignement. Il fallait permettre à un bien plus grand nombre d'enfants français, d'adolescents, à aller le plus loin possible dans la voie des études. Mais on a fait erreur en considérant que la démocratisation de l'enseignement exigeait un amoindrissement, si je puis dire, des exigences que l'on devait imposer aux jeunes Français. On a cru dans une sorte de ce qu'il faut bien considérer comme étant en réalité, même si ça n'était pas dans l'intention, bien au contraire, une sorte de mépris vis-à-vis du peuple qu'il fallait enseigner en considérant qu'il n'était pas capable de faire l'effort négatif qui est un des moments de l'instruction et de l'éducation qui consiste à s'abstraire du milieu dans lequel on vit, des conditions dans lesquelles on vit et qui sont toujours particulières et qui sont toujours contingentes et qui peuvent être injustes pour s'élever à la dimension de l'universalité. L'école de la Troisième République était une école qui avait su, dans la pratique, éviter les excès. Et si vous me permettez de continuer un peu en sens, je dirais très vite qu'en effet, l'école de la Troisième République avait réussi à concilier l'exigence négative de l'abstraction, de la formation qui imposait par exemple aux jeunes enfants la discipline austère du calcul, l'apprentissage du calcul, la pratique elle-même austère de la dictée, l'effort de mémoire pour l'histoire, la géographie, etc. Et d'autre part, elle comportait en elle-même le moment plus positif de l'adaptation aux choses, de l'écoute de la vie, à côté de la pratique austère, du calcul, de la dictée, de l'orthographe, de la rédaction. il y avait le moment de la leçon de choses, par exemple, où on plongeait l'enfant dans le concret. Le premier moment était un héritage, en fait, de toute la tradition précédente qui avait été illustrée en particulier par les jésuites, l'école austère. Jules Ferry, Ferdinand Buisson avaient ajouté des éléments nouveaux qui allaient dans le sens d'une plus grande concrétisation de la démarche scolaire. Et j'évoquais tout à l'heure la leçon de choses. Jules Ferry était un pragmatique, un opportuniste, comme il se considérait lui-même politiquement, ce qui fait que l'école de la Troisième République savait marier en elle deux moments qui n'étaient encore pas exacerbés en des idéologies opposées, et elle les conciliait dans une pratique qui, somme toute, avait assez bien réussi. Après la guerre est venu le temps des idéologues, le temps de l'opposition des doctrines pédagogiques, et on a vu s'opposer l'affirmation d'une éducation, d'une instruction traditionnelle, à laquelle, d'ailleurs, on considérait, dans l'ignorance du passé, que l'école de la Troisième République se résumait totalement. D'un autre, on a cru innover en appelant, au contraire, à une dimension nouvelle de la pratique de l'instruction et de l'éducation. L'école doit s'ouvrir sur le monde, elle doit s'ouvrir sur la vie. Il faut apprendre les choses concrètement, l'alphabet non, mais la méthode globale, etc. Et ces deux idéologies se sont combattues, continuent à se combattre, et on peut dire que l'école en France, et je pense surtout à l'école primaire, l'école en France, et l'école primaire en particulier, n'a pas su résoudre ce problème. Autorité, la liberté, les méthodes anciennes, les méthodes nouvelles, c'est un conflit qui a duré pendant tout le second demi-siècle et qui continue encore aujourd'hui. Je crois que il faut distinguer deux choses. L'école doit être un milieu éducatif libéral. Ça doit être un milieu éducatif amical. Il faut que les élèves s'y sentent chez eux. Ils doivent être respectés, car la liberté, c'est quelque chose de natif en l'homme, et tout homme, dès qu'il est né, est en lui-même un être libre, et il se comporte toujours comme tel. Mais deuxièmement, dans le sanctuaire de l'école qu'est la classe, là, l'amitié doit faire place, dans une certaine mesure, à l'autorité et à la discipline. L'instruction ne doit pas être ludique, elle ne doit pas être un jeu, et ici, il y a place pour une pédagogie de la rigueur. Cela signifie que si l'homme est libre d'emblée, et s'il doit être traité comme tel, la liberté n'existe qu'en s'affirmant elle-même librement, c'est-à-dire qu'en prenant des distances par rapport à ce qu'elle est immédiatement, c'est-à-dire en se formant, ou en d'autres termes, en se libérant. Voyez, il ne faut pas opposer une liberté native de telle sorte que on pourrait pratiquer une éducation laxiste, mais il ne faut pas non plus faire de la liberté simplement quelque chose qui doit être acquis. Je dirais, si vous voulez, en une formule, pas de liberté sans libération et pas de libération sans liberté. Et je crois que c'est ce que l'école française n'a pas réussi à réconcilier. Il faut faire droit à l'école, à l'exigence qui est celle des jeunes, mais en même temps à l'exigence qu'on doit leur imposer de développer vis-à-vis d'eux une démarche critique, savoir se maîtriser eux-mêmes, et ça comporte un élément négatif qu'il faut bien savoir affronter. Voilà mon sentiment sur l'école et sur la crise de l'école dont nous ne sommes pas sortis. Que l'école soit un milieu libéral, oui, mais ça doit être aussi un milieu où ce qui s'y passe est sérieux, et cela exige, si vous voulez, l'imposition d'un certain nombre de règles, de disciplines, et le mot discipline a une signification aussi bien pratique que théorique.
Voyons voir comment se comportait l'écolier Bernard Bourgeois. Étiez-vous un élève assidu? Quelle a été votre ville et votre village natal?
Eh bien, je suis né dans un petit village de la Bresse, un village de 1000 habitants, à Varennes-Saint-Sauveur, pour ne pas le nommer, dans la Corne. orientale de la Saône-et-Loire. Et j'ai gardé un attachement toute ma vie pour ce village, parce que c'était ce village, et c'est un village essentiellement rural, et aussi parce que c'était un village, c'est-à-dire une véritable communauté dans laquelle j'ai fait l'expérience de façon native de ce que c'était qu'un tout, voyez, dans lequel je me sentais absolument chez moi. Et pendant toutes mes études et pendant toute ma vie professionnelle, où je devais bien entendu me plonger dans le milieu du savoir, c'est-à-dire le milieu de l'abstraction, le milieu de la différenciation, le milieu de la spécialisation, le milieu de l'affirmation de soi dans la concurrence avec les autres, de l'école et de lycée d'ailleurs, j'ai toujours sauvegardé en moi cet attachement à mon pays natal, à cette totalité immédiate qui m'a permis, si vous voulez, dans cette heureuse tension entre la réalité d'un tout et puis l'affirmation de moi-même, qui m'a permis de demeurer, enfin j'espère avoir pu le faire, de demeurer vivant, puisque l'attention c'est toujours ce qui favorise et qui stimule la vie.
Alors justement, quand on parle d'enfance, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ? Douleur, douceur, regret, plénitude ?
Je crois que c'est le mot de douceur. Mais j'ai eu la chance de pouvoir dire que c'est ce mot. Je sais bien que pour de nombreuses personnes, les choses se sont passées différemment, mais c'est une très grande chance que de pouvoir vous faire la réponse que je vous fais, à savoir que l'enfance, ça a été pour moi le moment de la douceur.
Vous avez grandi au sein d'une famille nombreuse ou en tant qu'enfant unique ?
Non, j'avais une sœur, nous étions deux enfants, nous entendions très bien, nous entendons toujours bien. Et le milieu donc familial, comme le milieu de la petite cité, du village, ont été des milieux dans lesquels je me suis toujours trouvé chez moi. Et si vous me permettez d'évoquer des formations professionnelles, la définition que Hegel donne de la liberté, être libre, c'est pas s'enfermer dans son quant à soi, ça consiste à être chez soi, là où on est, c'est-à-dire se retrouver soi-même dans le tout dans lequel on a la chance de vivre lorsque c'est un tout qui est amical.
Eh bien, nous retournons vers un autre philosophe en titre. Voici la suite de notre symphonie numéro 22 de Hind, la symphonie du philosophe.
Thank you.
venez d'écouter le final de la symphonie numéro 22 de Haydn, grâce à notre invité de ce jour dans l'émission Parcours devant les micros de Canal Académie, grâce au choix de Bernard Bourgeois. Alors Bernard Bourgeois, pourquoi ce choix? Pourquoi Haydn?
L'époque qui a été illustrée par Haydn est en même temps et après, un peu après, mais Haydn a survécu par Mozart, par Beethoven. Cette époque de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe est une époque dans laquelle la tentative de conciliation intensifiée de l'affirmation de l'individu, par exemple à travers l'affirmation des droits de l'homme, et l'affirmation de la communauté ou des communautés, par exemple en France, à travers l'affirmation de la nation issue de la Révolution, la réconciliation intensifiée de ces deux dimensions de l'existence que sont le soi et le tout, cette époque a été illustrée également musicalement par ceux dont je viens d'évoquer les noms. Il faudra en citer beaucoup d'autres, les concertos de Haydn, les concertos de Mozart, les concertos de Beethoven sont un exemple privilégié d'identification du soliste ou des solistes et de la totalité de l'orchestre. C'est une époque où précisément les deux dimensions que je viens d'évoquer de l'existence ont été portées à un degré tout à fait exceptionnel. Il suffit d'évoquer le mouvement, l'événement de la Révolution française et de tout ce qu'elle a entraîné. Par conséquent, il m'a semblé que c'était une époque privilégiée. Et d'autre part, je dois dire que c'est une époque dont je me suis particulièrement occupé, puisque j'ai fait porter l'essentiel de mes efforts en tant qu'historien de la philosophie sur les grands représentants de cette période.
Alors justement, parlons de Hegel. Pourriez-vous nous dire quelques phrases pour resituer ce personnage dans son contexte historique et pour nous embrosser rapidement le portrait?
Le projet de Hegel, ça a été un projet de conciliation d'une différence, voire d'une contradiction dont la Révolution française en particulier a montrer et réaliser l'explosion, un effort pour réconcilier ces opposés qu'on peut présenter comme ceux de l'Ancien Régime, la totalité, l'organicité de l'existence, l'immédiateté de l'existence, parfois même la naturalité de l'existence qui conditionnait toutes celles-ci, on est né ou on n'est pas né, c'était les limites de cette époque, l'Ancien Régime et la Révolution, le surgissement de l'individu, l'affirmation des droits de l'individu, la liberté face à l'autorité, l'innovation face à la tradition. Hegel a voulu réconcilier l'Ancien Régime et la Révolution. Il a voulu réconcilier en quelque sorte, et j'emploie ces deux termes pour montrer que l'effort qui était celui de Hegel en Allemagne a eu un correspondant en France, réconciliation de l'ordre et du progrès, car ce que Hegel a essayé de faire en Allemagne, Auguste Comte par exemple a essayé de le faire en France, ce sont chez Hegel, comme chez Comte et chez d'autres encore, un effort pour, après la tempête, après la tourmente, amener la pacification. Et pour Hegel, la vraie réconciliation et la véritable unité exige qu'on soit passé par la différence, par l'aiguisement des oppositions et des contradictions. La véritable unité est celle qui a la multiplicité en elle-même, la véritable identité est celle qui a en elle-même la différence et qui l'ayant en elle et non pas hors de soi n'est pas dominée par cette différence comme par un destin, mais au contraire enrichie par elle comme ce qui lui permet d'être une unité vivante, alors que l'unité dans l'homogénéité, c'est l'unité de la mort. Alors Hegel a voulu réconcilier tout cela, et ça s'est traduit en particulier dans sa philosophie politique, où son objectif, qui a d'ailleurs été un objectif de tout le 19e siècle, ça a été la réalisation d'une monarchie, l'ordre, mais constitutionnelle, à savoir le souci des, et le respect des individus et des groupes au sein, de, au sein d'une nation, au sein d'un État. Par conséquent, la réconciliation, encore une fois, du choix et du tout.
Bernard Bourgeois, vous qui avez consacré toute votre vie, tout votre parcours à la philosophie, je vous propose, si vous le voulez bien, de jouer avec nous pour poursuivre cette émission Parcours Portrait au jeu du philosophe questionné par d'autres philosophes. D'accord ? Alors, est-ce que vous dites comme Épicure, la mort n'est rien pour nous ?
La mort n'est rien, mais la pensée de la mort, en un sens, est tout pour nous. C'est la pensée du néant, ou c'est la pensée de dont on ne sait pas si c'est l'entrée dans le néant, ou au contraire, l'entrée dans l'être véritable. Mais on a défini souvent l'homme comme cet être pour qui la mort existe et qui pense à la mort. Par conséquent, la mort est bien, au moins à titre de contenu de la pensée, un moment essentiel de la vie. Mais je crois que si la pensée de la mort ne peut pas ne pas hanter la vie, la philosophie, et le philosophe est sans doute celui qui s'efforce de vivre et qui maintient la pensée de la mort en quelque sorte comme arrière-fond pour se consacrer à ce qui seul a une signification positive pour lui et sur quoi il peut agir, à savoir la vie elle-même. C'était d'ailleurs un élément important de la sagesse antique.
Alors, comme Kant dans la Critique de la raison pure, dites-vous « le ciel étoilé au-dessus de moi et la morale en moi ».
Oui, l'immensité extérieure, l'univers ou les univers, d'un côté, ce qui correspond dans la démarche de l'homme à l'effort scientifique de connaissance de cet univers, de ces univers dans lesquels nous vivons absolument comme étant perdus, enfin je peux évoquer les thèmes pascaliens ici, la loi morale en moi, l'intériorité absolue, la simplicité absolue, non plus le sublime des cieux et le sublime de la contemplation des cieux, mais l'effort moral dans sa simplicité absolue, comme Kant d'ailleurs l'avait bien dépeint. Ça correspond, en ce qui concerne la démarche humaine, au versant pratique de l'existence. Philosophie théorique, philosophie pratique sont bien exprimées par cette tension que Kant a définie, comme vous venez de le rappeler, de le citer. Mais pour Kant, de ces deux dimensions de l'existence et de ces deux contenus de pensée, c'est le second qui est fondamental. L'homme, en sa moralité, a une dignité. Tout le reste, l'immensité des choses, peut avoir du prix. Et au fond, c'est bien la morale qui est absolument le socle de toute existence. Il y a un primat du pratique par rapport au théorique, il y a un primat de la morale par rapport à la connaissance, et je pense que, en tout cas, effectivement, ce sont bien les deux pôles de l'existence de l'homme définis par les deux objets fondamentaux qui le préoccupent, l'objet théorique, l'immensité de l'univers, et puis l'objet pratique, la responsabilité qu'on exerce, qu'on assume seul, face à la loi morale qui nous élève au-dessus de nous-mêmes en tant qu'une exigence qui nous fait, semble-t-il, nous oublier nous-mêmes, mais au fond, pour nous faire nous réaliser beaucoup mieux, puisque la loi morale, c'est l'universel, et que c'est celui-ci que j'ai à faire briller, et, à faire resplendir en moi.
L'homme est un loup pour l'homme. C'est le Hobbes.
Philosophie pessimiste, philosophie politique pessimiste, l'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est un ami pour l'homme. Si vous voulez, l'homme est cet être qui peut décider de lui-même ce qu'il doit être et qui, au fond, peut faire que si l'on est parfois tenté de donner comme la réponse fondamentale à l'énigme de l'homme, la première réponse, l'homme est un loup pour l'homme, je crois quand même que l'homme doit penser qu'il est un ami pour l'homme et le pensant être mis à même de le faire se réaliser, ce mot d'ordre, que l'homme est un ami pour l'homme. Je crois que, et on pourrait évoquer Spinoza, entre autres, qui a parfaitement dit et situé les deux choses, voyez, de ce que l'homme est naturellement à ce qu'il est en son essence, en ce qu'il a de véritablement humain, et selon ce dernier aspect qui est l'aspect fondamental, c'est bien un ami, c'est bien un ami pour l'homme. L'homme ne peut devenir homme que parmi les hommes, à travers l'éducation, et celle-ci n'est pas possible sans amitié. Elle est une amitié qui suscite l'amitié. L'éducateur est un être libre qui libère les autres, mais je crois que c'est la définition de la liberté. Être libre, c'est vraiment libérer les autres, et ça, c'est bien, dans une certaine mesure, la vérité de l'amitié.
Bernard Bourgeois, grâce à vous, nous allons maintenant partir sur les traces d'un grand aventurier de l'histoire, Alexandre le Grand. Nous allons écouter en partie la musique de la bande originale du film Alexandre le Grand, qui est actuellement toujours sur nos écrans. Une musique signée Vangelis. Racontez-nous pourquoi le choix de ce film et de cette musique.
C'est très simple, parce que je trouve que c'est beau, d'une part, et parce qu'Alexandre, qui est un aventurier, mais plus qu'un aventurier, il a représenté un moment essentiel de l'histoire du monde, la réconciliation de l'Orient et de l'Occident, qui a vu la naissance de la philosophie, qui est née sous sa forme rationnelle, avec les sept sages sur les bords de l'Asie mineure. Le nœud gordien, oui, nous avons encore à le résoudre ou à le trancher aujourd'hui. C'est un problème d'actualité que celui des frontières de l'Europe, en particulier dans cette région du monde, l'Orient, l'Occident. Par conséquent, Alexandre le Grand nous renvoie aux origines de la philosophie et nous ramène aussi à l'actualité la plus brûlante.
Alexandre le Grand, une musique signée Vangelis. d'écouter ensemble un extrait de la bande musicale du film qui est actuellement encore, je crois, sur nos écrans, Alexandre le Grand, une musique signée Vangelis. Ce choix, nous le devons à notre invité aujourd'hui au cours de notre émission Parcours, devant les micros de Canal Académie. C'est le choix de Bernard Bourgeois, professeur émérite qui a consacré toute sa vie à la philosophie, à son enseignement. Alors justement, pour préparer cette émission, Bernard Bourgeois, je vous avais demandé de bien vouloir faire le choix d'un texte qui a compté pour vous, un texte littéraire qui a marqué votre parcours, votre réflexion d'homme. Nous n'allons pas dévoiler nos sources à nos auditeurs. Laissons-les deviner de qui il s'agit, qui a écrit ce texte. Nous vous écoutons, Bernard Bourgeois.
Tu veux venir dans le monde et tu viens les mains vides. En leur promettant une liberté qu'ils ne peuvent même pas comprendre, dans leur simplicité et dans leur anarchie innée. Une liberté qu'ils craignent et qu'ils redoutent, car il n'y a jamais rien eu de plus intolérable pour l'homme et pour la société humaine que la liberté. Tu vois ces pierres dans ce désert nu et brûlant. Transforme-les en pain, et l'humanité courra derrière toi comme un troupeau reconnaissant et docile, bien que tremblant toujours, que tu ne retires ta main et tes bienfaits. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté, et tu as repoussé la proposition. Car disais-tu, qu'est-ce que la liberté, si l'obéissance est achetée par des pains? Tu as objecté que l'homme ne vit pas que de pain. Mais ne sais-tu pas que c'est au nom du pain que l'esprit de la terre se dressera contre toi et te combattra et te vaincra, et que les hommes le suivront, s'exclamant, « Qui pourrait égaler la bête? Elle nous a fait descendre le feu du ciel. » Tu le savais. Tu ne pouvais pas ne pas connaître le secret fondamental de la nature humaine, mais tu as repoussé l'unique étendard infaillible qu'on t'avait offert pour que tous s'inclinent devant toi sans discussion, l'étendard du pain terrestre, et tu l'as rejeté au nom de la liberté et du pain céleste. Et vois ce que tu as fait ensuite, toujours au nom de la liberté. Je te le dis, l'homme ne connaît pas de souci plus torturant que celui de trouver quelqu'un à qui il puisse remettre au plus tôt ce don de la liberté avec lequel cet être malheureux vient au monde.
Un drôle de malheur pour l'homme, la liberté. Bernard Bourgeois, alors vous allez nous dire qui a écrit ce texte. Il est extrait de quelle œuvre littéraire ?
Eh bien, c'est un passage célèbre du roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov. Ce passage est celui qui est désigné, que l'on désigne, comme la légende du grand inquisiteur. Voulez-vous que je vous dise pourquoi j'ai choisi ce texte ? Bien, c'est un texte que j'ai lu dans les années, par la fin des années 40, début des années 50. J'étais étudiant. Et c'est un texte qui, pour ceux de ma génération, bien qu'il ait été écrit beaucoup avant, mais sa valeur anticipatrice était d'autant plus remarquable, pour les gens de ma génération, ce texte pose le problème de la relation, ou du choix peut-être, entre d'une part la liberté et d'autre part le pain, c'est-à-dire d'une façon générale la sécurité. La liberté, dans laquelle on s'affirme soi-même en sa singularité, les droits de l'homme. D'autre part, la sécurité, la tranquillité, au sein d'une communauté, d'une totalité, dans laquelle on est en quelque sorte fondu. Ce problème dont nous avons déjà parlé au cours de cette émission, celui des relations entre l'affirmation de la liberté et l'affirmation de la totalité, qu'à l'époque on désignait comme s'il avait été un problème intérieur à la liberté, mais dans laquelle on opposait ce qu'on appelait la liberté formelle, la liberté traditionnelle, la liberté du libre choix par chacun de son existence, et ce qu'on appelait les libertés réelles. Qu'est-ce que c'est que la liberté si on n'a pas la sécurité? Qu'est-ce que c'est que la liberté pour les pauvres qui manquent de pain? La liberté formelle, le libéralisme, la démocratie libérale, la liberté réelle, la république et la démocratie populaire. C'était le choix de l'époque. Ça avait été illustré dans la littérature, le zéro et l'infini. C'était l'époque dans laquelle le mouvement communiste qui affirmait la nécessité de la paix, le mouvement de la paix, et au contraire, ceux qui s'opposaient à lui, les défenseurs des droits de l'homme, le mouvement des droits de l'homme, c'était l'époque de l'affrontement entre ces deux grandes orientations de la vie sociale et politique. Et je trouve que Dostoïevski ici a bien situé les choses. Je pense que on ne peut pas séparer la liberté formelle et la liberté réelle. On ne peut pas distinguer ce que Marx appelait le royaume ou le règne de la liberté, à quoi il opposait le règne de la nécessité, comme si le règne de la liberté devait naître du règne de la nécessité, comme si, en réalisant ce qu'on appelait les libertés réelles, on pouvait faire l'économie des libertés formelles et réprimer celles-ci. La liberté ne peut naître que d'elle-même, puisqu'elle est native en l'homme. Si on attend de la nécessité que survienne le règne de la liberté ne viendra jamais. C'est le grand inquisiteur ici qui s'oppose au Christ, puisque c'est à lui qu'il s'adresse, le Christ qui est venu libérer les hommes, est un des grands représentants d'une certaine église. Le grand inquisiteur s'oppose au message du Christ en affirmant que ce dont les hommes ont besoin, c'est de la sécurité en premier lieu et du pain, et non pas de la liberté. Dostoïevski me semble avoir parfaitement vu ce qui a été le problème dominant du XIXe siècle et qui reste encore un problème pour nous.
Bernard Bourgeois, vous vous sentez proche du message du Christ ?
Bien sûr, bien sûr. La liberté, ça a été le contenu de l'Évangile, ça a été la bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme, par conséquent, l'homme a vocation à une existence divine, et l'existence divine consiste dans la jouissance d'une liberté absolue parce que elle est capable de réaliser sous elle, en elle, la totalité des choses. C'est un message de libération, mais c'est un message qui n'est pas propre au Christ, qui est propre de penseurs qui ne se reconnaissent pas ou plus dans le christianisme, mais qui tous, lorsqu'ils évoquent les conditions qui ont rendu possible une telle émancipation, libération de la religion, et particulièrement de la religion chrétienne, savent très bien que c'est celle-ci qui a permis par son message qu'on puisse ultérieurement s'émanciper et se libérer d'elle. C'est un message, c'est le message absolu, rappeler à l'homme qu'il est libre.
Votre grand ami Hegel écrivait « C'est seulement par le risque de sa vie » Votre ami Hegel écrivait « C'est seulement par le risque de sa vie que l'on conserve la liberté ».
Bien sûr, je crois que c'est une des grandes paroles d'Hegel, mais d'autres l'ont dit avant lui et après lui. Il l'a dit d'une manière particulièrement forte, évoquant d'ailleurs, avec beaucoup d'admiration, celui qui avait le premier identifié dans le domaine de la philosophie, l'absolu à liberté, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Et c'est donc dire que cette affirmation de la liberté comme étant ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme est une affirmation qui dépasse les cultures, les frontières des nations. C'est une affirmation universelle. C'est la grande affirmation de l'homme par lui-même.
Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme,
bien
disait
sûr,
Rousseau.
Bien sûr.
C'est sur cette belle phrase que nous allons nous séparer,
eh bien, écoutez,
en revendiquant haut et fort cette liberté.
Je pense qu'il faut sans cesse le redire et sans cesse le mettre en pratique, mais en ayant parfaitement conscience que c'est encore une parole de Hegel, être libre, c'est libérer les autres. On n'est pas libre seul, celui qui est libre peut libérer les autres, son rapport aux autres n'est pas un rapport qu'on peut exprimer par le terme de production, le produit dépendant toujours de celui qui l'a produit, mais qu'on ne peut exprimer que par le terme de création. C'est vrai dans l'art, c'est vrai dans la religion, c'est vrai dans la philosophie. Oui, l'homme est libre, mais il est libre dans la mesure où les autres le sont aussi, et tous ne le sont que les uns par les autres.
À travers tout votre parcours, toute votre expérience de vie, d'enseignement, Vers quel cap vous dirigez-vous? Un cap optimiste? Un cap pessimiste? Qu'est-ce qui vous fait vivre, agir et garder le sourire?
Ah ben je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il devrait l'être. C'est vous dire que ma réponse est une réponse de style optimiste. Nous avons toutes les raisons du monde à être pessimistes. L'histoire est en train de piétiner si elle n'est pas, en tant qu'animée par des grandes causes qui lui donnent sens, si elle n'est pas achevée. La nature elle-même rappelle qu'elle peut être une marâtre et par conséquent, nous avons toutes les raisons d'être pessimistes. Mais l'optimisme est de volonté et je rappellerai ici, je finirai en évoquant celui qui au fond a sans doute été, sinon le plus grand, peut-être, sûrement, des plus grands philosophes de tous les temps, à savoir Kant lui-même, qui affirmait, c'était sa parole essentielle, « tu dois, donc tu peux ». Il faut être optimiste, donc on doit penser qu'on le peut. L'optimisme est de volonté, le pessimisme est de l'ordre du constat, mais il faut toujours faire prévaloir la volonté sur le constat, le pratique sur le théorique. L'affirmation de l'homme est une affirmation qui n'est pas d'ordre théorique. Ce que l'expérience montre, c'est la différence des hommes et leurs oppositions. L'humanisme est d'abord pratique. L'homme s'affirme non pas à l'indicatif, mais toujours à l'impératif. Et je crois que, en ce sens, je puis dire que je suis optimiste.
Bernard Bourgeois, merci.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.